Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans le traité sur la vertu de religion. Ensuite, nous aurons rapidement, parce que ce sont des choses relativement faciles, à étudier le traité sur la force, donc pour terminer les vertus cardinales. La force, question 123 à 140. La tempérance, question 141 à 170. Et puis il restera un petit traité sur les états de perfection, ou l'état de perfection, surtout sur la vocation religieuse. Question 171 à 189 de la Seconda Secundae. Nous en sommes actuellement à la question 101 de la piété filiale. Donc toutes ces petites questions sont quand même leur importance. Je vais insister sur les points importants. Je ne sais plus qui a dit, et c'est très vrai, que un des signes, le signe le plus visible de la décadence d'une société, c'est la perte du respect des anciens. Et c'est tout à fait vrai. On le voit surtout actuellement avec cette tendance à se débarrasser des personnes âgées qui encombrent et de les placer dans un mouroir quelque part pour qu'ils nous fichent la paix. Ceci s'oppose complètement à la conception catholique du respect des anciens. Auparavant, dans les siècles de foi, les anciens n'étaient jamais parqués dans des mouroirs. Ils restaient dans les familles, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et les gens qui s'occupaient des enfants, qui s'occupaient de leurs vieux parents comme ça, savaient qu'un jour, eux aussi seraient vieux et seraient bien contents à ce moment-là, une fois vieux et un petit peu au bout du rouleau, sur le plan physique, ils seraient bien contents d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc cette piété filiale, une conséquence directe de la vertu de justice, en fait. La vertu de justice qui entraîne la vertu de religion, laquelle entraîne la piété filiale. Donc c'est un culte qui est rendu à nos parents et à nos amis dans la patrie, les amis de notre patrie. Donc la piété filiale ne va pas simplement agir par rapport aux parents, mais également, dit saint Thomas d'Aquin, par rapport à la patrie, à ce qui se rapporte à la patrie. Car Dieu, premier principe de notre être, infiniment parfait en lui-même, réclame suréminemment les devoirs de la religion à raison de son excellence et de ses bienfaits. Et de même que nous avons tout reçu de Dieu, qu'il nous faut rendre à Dieu ce qu'il nous a rendu, ou au moins lui rendre par le respect ce qu'il nous a rendu, de la même façon nous devons nous aussi, puisque nous avons tant reçu de nos parents, nous avons à rendre à nos parents une partie de ce qu'ils nous ont donné. Et je dis souvent aux jeunes qui ont un petit peu de mal à comprendre ces choses-là, parce que les idées modernes pénètrent malheureusement dans les esprits, et surtout cette idée que on n'est plus tenu de s'occuper des personnes âgées, que maintenant il y a des assurances pour ça, il y a des iPad pour ça, des maisons pour les personnes âgées, donc on n'a plus trop à s'occuper de ses parents, il suffit d'aller les voir de temps en temps. Non, ça ne suffit pas, le bon Dieu nous demande beaucoup plus. Et ce respect des anciens est extrêmement important. Donc la piété, si vous voulez, est l'exact accomplissement de nos devoirs à l'égard de nos parents et des amis de notre patrie. La religion, donc, est une protection de la foi, de l'espérance et de la charité par lesquelles l'homme s'ordonne à Dieu de façon primordiale. Et l'homme va s'ordonner à Dieu aussi par le respect des anciens. Pourquoi ? Parce que l'autorité des anciens sur nous est une autorité certes morale, mais une autorité quand même. C'est évident que des personnes très âgées qui vivent encore chez leurs enfants, bon, ont droit au respect, bien entendu, mais évidemment, ne vont pas diriger la maison comme s'ils étaient encore chefs de la maison. Quoique, dans les temps anciens, les temps de foi, ça se faisait encore. Il y avait ce qu'on appelait le patriarche et la matriarche. Donc les familles restaient ensemble lorsque les personnes âgées pouvaient plus s'occuper d'elles-mêmes de façon autonome. Les enfants s'en occupaient et c'était encore le père de famille qui dirigeait un peu la maison. Bon, c'est sûr qu'il faut un petit peu adapter au monde moderne dans le bon sens du terme. Cependant, ce manque de respect à l'égard des anciens va entraîner un manque de respect à l'égard de Dieu. Alors nous avons cette question 101 dans la Seconda Secundae. Donc prenez aussi sur les polycopiers à la page 105, donc il y a quelques textes ici de saint Thomas. Je m'excuse du caractère un peu décousu du polycopier, c'est pas vraiment un cours le polycopier, ce sont des textes de saint Thomas mis bout à bout pour avoir la vue directe sur ces textes, pour mieux comprendre le cours lui-même. Donc après Dieu, dit saint Thomas, c'est la question 101, article 1er, la piété finale concerne-t-elle des personnes déterminées ? Après Dieu, dit saint Thomas, se présentent les principes secondaires de notre existence, de notre direction, nos parents et notre patrie. Nos parents qui nous ont donné la vie, notre patrie qui nous a protégés, qui a protégé notre existence et notre éducation. C'est pourquoi, dit saint Thomas, de même que la religion rend à Dieu le culte souverain, la piété filiale rend aux parents et à la patrie un culte secondaire. Donc toute autorité vient de Dieu. L'autorité de nos parents sur nous vient de Dieu. L'autorité dans son domaine de la patrie sur nous vient aussi de Dieu. Vous voyez ? Il faut bien expliquer ça aux enfants. Je dis toujours aux tout-petits que lorsqu'ils disent non aux parents, ils disent non. Ils disent non à Dieu lui-même. Vous voyez ? Donc attention à ce respect pour les anciens. D'ailleurs, à la question suivante, question 102, saint Thomas va traiter expressément de ce sujet du respect. Vous voyez, toute une série de questions là, qui sont liées les unes aux autres. Question 101, la piété filiale. Question 102, du respect. Question 103, la vertu de Dulli. Question 104, de l'obéissance. L'obéissance au supérieur. Et question 105, de la désobéissance. Ensuite, il va toucher les conséquences. La reconnaissance, question 106. De l'ingratitude, question 107. De la vengeance, question 108. Et ensuite, il va passer à d'autres sujets comme la véracité et la sincérité et le mensonge, question 109, 110 et suivantes. Donc, le culte de Dieu renferme le culte des parents. Le culte des parents est donc compris dans le culte de Dieu. Parce que le culte de Dieu, c'est le culte à l'égard de notre supérieur le plus élevé. Donc le culte à l'égard du supérieur le plus élevé va contenir implicitement le culte à l'égard des supérieurs inférieurs. C'est pour ça que le mot piété ne s'exerce pas simplement par rapport aux parents, mais d'abord par rapport à Dieu. On parle de la piété à l'égard de Dieu. Le problème, c'est que très souvent, lorsqu'on parle de piété, on ne pense qu'à la piété à l'égard de Dieu, qu'on comprend parfaitement, mais on oublie qu'il y a également une piété par rapport à la patrie, une piété par rapport aux parents. D'accord ? Donc, article 2. La piété filiale nous prescrit-elle de soutenir nos parents ? Et voilà ce que répond saint Thomas. La piété filiale nous prescrit deux devoirs à l'égard de nos parents, de les honorer et de les assister. C'était des choses qui étaient évidentes auparavant. On voit encore ça dans les milieux, si vous voulez, des pays qui n'ont pas été complètement contaminés par le libéralisme du monde moderne. On voyait ça par exemple très bien en Afrique centrale, où les anciens étaient non pas vénérés, mais il y avait une autorité énorme. Il y avait les chefs de village. Le chef de village se réunissait avec les anciens, qui étaient que des personnes d'âge largement canonique, qui dirigeaient et réglaient les affaires du village, parce qu'ils avaient l'expérience. Et au Moyen-Âge, on voit très bien qu'un des péchés les plus coupables dans l'esprit des gens du Moyen-Âge, c'était le manque de respect à l'égard de ses parents. manque de respect à l'égard de ses parents, d'où le quatrième commandement. Hein, tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. Bon, certes, ce commandement n'est pas simplement un commandement pour les enfants, c'est aussi un commandement pour les parents, il ne faut pas oublier ça. Les enfants doivent agir de telle façon qu'ils voient Dieu derrière l'autorité de leurs parents, mais les parents doivent agir de telle façon que les enfants puissent voir Dieu derrière la façon de vivre. Donc, le fils doit à son père révérence et soumission. C'est évident qu'il faut du bon sens et que lorsque un enfant qui est devenu un adulte, qui a une famille propre, vient visiter ses vieux parents, bon, ça ne veut pas dire que les parents ont le droit de se mêler constamment des histoires personnelles de leur fils, des histoires familiales de leur fils, surtout si le fils vit dans sa propre maison, séparé des parents. Le fils a une autorité propre sur sa propre maison, et donc les parents doivent faire attention de ne pas vouloir se mêler systématiquement à toutes les histoires familiales de leurs enfants. Mais cet honneur, cette révérence, cette soumission, cette assistance sont dues à l'égard de nos supérieurs. Saint Thomas explique dans des détails, votre père est-il malade, vous devez le visiter, lui procurer des secours, est-il dans l'indigence, vous devez pourvoir à ses besoins. Un des signes de la disparition du cœur, littéralement, c'est le manque, l'absence de respect à l'égard des parents. J'ai vu dans mon apostolat de prêtre, surtout en m'occupant des vieillards, des malades, j'ai vu des choses absolument invraisemblables. Hein. Je me rappelle par exemple un vieux malade, une vieille malade que je voyais régulièrement dans une ville du nord de la France, et j'y allais une fois par mois pour la confesser, cette vieille dame qui avait au moins, je ne sais pas quel âge elle avait, pas loin de 80 ans. J'allais la voir une fois par mois pour lui porter la confession et la communion. Eh bien, elle avait des enfants qui étaient mariés, adultes, dans la même ville, qui ne venaient jamais voir leur mère. Jamais, jamais. Je pense que c'est très important, pas simplement pour les enfants qui sont devenus des adultes, mais aussi pour les petits-enfants. Les petits-enfants ont besoin d'avoir l'influence de leur grand-mère. Les grands-mères et les grands-pères, les grands-parents ont un rôle indirect dans l'éducation, surtout parce qu'ils représentent l'autorité. J'ai vu les deux choses. J'ai vu d'une part des parents, des enfants complètement indignes qui s'occupent plus de leurs vieux parents. Et puis j'ai vu aussi des choses extraordinaires d'enfants adultes qui s'occupent de façon admirable de leurs vieux parents, même quand les vieux parents sont devenus complètement grabataires. J'ai vu des enfants qui avaient la cinquantaine s'occuper de leurs vieux parents avec un amour, un dévouement extraordinaire. Donc, la piété filiale rend à la fois le service et le culte. C'est une citation de Cicéron. Le service désigne l'assistance et le culte, l'honneur et la référence. Donc, il faut comprendre le mot culte. Attention, hein. Le mot culte ici utilisé, un culte que l'on doit à nos parents, n'a rien à voir évidemment avec le culte des ancêtres tel qu'il est pratiqué chez les animistes africains, par exemple. Mais il y a un culte dans le sens que la vertu de religion nous demande de respecter et d'honorer nos parents. Et dans ce sens-là, cette vertu, cette piété filiale est une vertu spéciale. Un article important, c'est la question, dans la Seconda Secundae, question 101, article 4. Donc vous avez plus de choses, plus de textes sur cet article 4 de la question 101, à la page 105 sur le polycopier. Peut-on, sous couvert de religion, omettre les devoirs de la piété filiale? C'est-à-dire, la question se pose ainsi, peut-il y avoir dans certains cas une opposition entre les devoirs de la vertu de la piété filiale et les devoirs de la vertu de religion? C'est-à-dire, quand il y a une opposition entre nos devoirs par rapport à Dieu et nos devoirs par rapport à nos parents, que devons-nous faire? Et ça peut arriver, malheureusement. C'est le cas, par exemple, de parents qui, sans raison proportionnée, s'opposent très fortement à la vocation religieuse de leurs enfants. Donc, c'est des problèmes assez difficiles à résoudre parfois. Mais voilà, mais je voudrais rentrer au séminaire, je voudrais rentrer en maison religieuse. Je crois que j'ai la vocation, mais mes parents s'y opposent mordicus. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai le droit, à ce moment-là, de faire passer ma vocation avant mon amour et le respect que je dois avoir à mes parents? La réponse est toute simple, en fait. C'est que le respect et le culte que nous devons avoir à l'égard de nos parents est soumis au culte divin. Parce que l'autorité de nos parents est une participation à l'autorité divine. Donc la réponse peut être donnée ainsi. Je dois suivre, garder ce respect extérieur pour mes parents, cette obéissance à mes parents, tant que cette obéissance m'aide à me rapprocher du bon Dieu. Mais si le culte que je dois à mes parents s'oppose à la volonté du bon Dieu, dans ce cas-là, la volonté du bon Dieu, évidemment, passe avant. Voilà ce que dit saint Thomas. Si le culte des parents nous éloignait du culte de Dieu, ce ne serait plus de la piété envers les parents que de s'opposer au culte envers Dieu. Car il faut faire passer la religion envers les dieux avant les devoirs envers les parents. Mais si ces devoirs ne nous détournent pas du culte dû à Dieu, ce sont dès lors des actes de piété filiale qu'il ne faut pas négliger sous prétexte de religion. Donc, ce serait une erreur grave de prétendre que l'homme doit honorer les auteurs de ses jours, c'est-à-dire ses parents, plus que Dieu. Du moment, encore une fois, que le culte des parents ne nous éloigne pas du service de Dieu, eh bien, les devoirs de piété filiale subsistent. Par exemple, dans la vie religieuse, il y avait avant, je pense que cette loi a dû être conservée, donc lorsqu'un religieux, un jeune homme voulait rentrer en vie religieuse pour devenir moine, par exemple, donc l'enquête qui était faite par la maison religieuse qui voulait recevoir, dans laquelle ce jeune homme voulait rentrer, une enquête était faite par les personnes en charge, par le maître des novices entre autres, et quand le jeune homme venait discuter un petit peu avec le maître des novices pour préparer son entrée, une des questions que devait bien contrôler le maître des novices, c'était de vérifier que les parents de ce jeune homme qui souhaitait rentrer dans la vie religieuse n'étaient pas en état de nécessité. Donc si un jeune homme voulait rentrer en vie religieuse mais qu'il avait à charge des vieux parents, et si ce jeune homme rentrait en vie religieuse, ses vieux parents allaient se retrouver dans l'abandon le plus complet, dans ce cas-là, le devoir d'état du jeune homme, c'était de rester avec ses vieux parents pour s'en occuper. Il ne pouvait rentrer en vie religieuse qu'après la mort de ses parents. Par contre, si un religieux est déjà en vie religieuse, bon, il a fait sa profession par exemple, il est en vie religieuse, et puis les parents se retrouvent en état de dépendance totale. Est-ce que le religieux doit quitter à ce moment-là son couvent pour revenir dans le monde et s'occuper de ses vieux parents? La réponse est non, parce qu'à ce moment-là, il appartient directement à Dieu par sa profession religieuse. Bon, c'est évident, dans ce cas-là, ce moine doit tout faire pour essayer de trouver à ce moment-là une autre manière, une autre façon d'aider ses vieux parents, même dans certains cas, certains couvents, donc participer à l'entretien des vieux parents des moines, parce qu'évidemment, les moines ne pouvaient plus quitter le couvent une fois qu'ils étaient liés avec ce couvent par un vœu d'obéissance. C'est l'application de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à moi et ne hait point son père, sa mère, sa femme, ses fils, ses frères, ses sœurs et sa vie même, il ne peut être mon disciple. Lorsque ceux qui ne commandent rien de contraire à Dieu ne peuvent se passer d'un enfant, celui-ci ne doit pas les quitter pour entrer en religion, ce que je viens d'expliquer. Les abandonner uniquement à la providence, ce serait violer le précepte qui nous ordonne d'honorer les auteurs de nos jours, et même ce serait une tentation de Dieu. Hein? Tes pères et mères honoreront afin de vivre longuement. L'homme qui a fait profession contraire dans la vie religieuse est mort au monde, il ne doit point sortir de quoi donc pour assister les siens, il peut seulement prier ses supérieurs d'alléger leur sort. Et ce sont des détails qui sont importants. On voit très bien dans les textes de l'Évangile, entre autres en Matthieu 15, 3, que notre Seigneur blâme les pharisiens qui, pour un motif religieux, enseignaient à refuser l'honneur dû aux parents. Il n'est aucun possible que la religion et la piété se fassent mutuellement obstacle, de telle sorte que les actes de l'une empêchent les actes de l'autre. Donc il appartient à la piété filiale de rendre à ses parents service et honneur dans la mesure qui s'impose. Or, ce n'est pas observer cette mesure que de tendre à honorer son père plus que Dieu. Dieu passe avant. Dieu passe avant. Alors, il y a des textes, un texte très fort de saint Thomas. Voilà ce que dit saint Thomas. Nous devons haïr, dit-il, et fuir nos parents s'ils s'opposent à nous dans la voie qui mène à Dieu. En effet, si nos parents nous provoquent au péché, nous détournent de la religion, nous devons à ce point de vue les abandonner et les haïr. Ensuite, il donne certaines distinctions. C'est pourquoi, dit-il, si nos services envers nos parents selon la chair sont absolument nécessaires pour les assister, nous ne devons pas, sous couvert de religion, les abandonner. Mais s'il nous est impossible de vaquer à leur service sans commettre de péché, encore s'ils peuvent être assistés sans notre secours, il est permis d'omettre ces services pour vaquer plus généreusement à la vertu de religion. Donc, vous voyez, il y a toute une série de cas là qu'il faut analyser. Il faut essayer de trouver une solution avec les vertus de prudence et les vertus de charité, bien entendu. Donc, saint Thomas explique bien, je reprends un petit peu ce que j'ai expliqué, cette fois-ci directement avec le texte de saint Thomas. Voilà ce que dit saint Thomas concernant celui qui est déjà dans la vie religieuse. Celui qui est établi dans le monde, s'il a des parents qui ne peuvent subsister sans lui, ne doit pas les abandonner pour entrer en religion parce qu'il transgresserait le précepte d'honorer ses pères et sa mère, son père et sa mère. Certains disent pourtant que même en ce cas, ils pourraient licitement les abandonner en confiant leurs soins à Dieu. Mais si l'on envisage correctement les choses, ce serait tenter Dieu, puisque, sachant par la sagesse humaine ce que l'on doit faire, on mettrait en danger ses parents en espérant que Dieu les secourra. Donc, attention, aide-toi et le ciel t'aidera, comme dit le proverbe. Donc, une personne qui sait que ses parents ne peuvent pas survivre sans lui, n'a pas le droit de rentrer en vie religieuse tant que la situation n'est pas réglée. Par contre, celui qui a fait profession en vie religieuse, il est regardé comme mort au monde. Il ne doit donc pas, même pour assister ses parents, quitter le cloître où il est enseveli avec le Christ et s'engager de nouveau dans les affaires du siècle. Il est cependant tenu, dit saint Thomas, sans manquer à l'obéissance envers son supérieur et à son état religieux, de s'efforcer avec piété d'aider ses parents. Je suis en train de lire actuellement une lecture spirituelle un livre magnifique sur la vie de saint Ignace de Loyola à partir du père Ibadaneira, un de ses premiers compagnons. Et il explique très bien que même lorsque saint Ignace venait dans le nord de l'Espagne, tout proche de sa famille qui habitait à Loyola, au château de Loyola, eh bien il n'allait même pas voir sa famille. Sauf de très rares exceptions. Et les jésuites avaient cela comme règle, surtout au début, lorsqu'un religieux jésuite venait faire une mission dans sa ville, la ville de sa naissance, la ville où appartenait, où habitaient ses parents, eh bien, il n'allait pas visiter sa famille. Il n'allait pas visiter sa famille, tout simplement parce que il est religieux. Étant religieux, en quelque sorte, il change de famille. Rappelez-vous, par exemple, l'attitude aussi de saint François d'Assise, donc tout jeune, qui voulait suivre notre Seigneur Jésus-Christ, qui se heurtait à l'opposition farouche de son père. Eh bien, saint François d'Assise, donc, est venu devant son père et lui a tout laissé, tout ce qu'il avait. Il a même enlevé ses habits, les a donnés à son père pour lui rendre tout ce qu'il avait reçu de lui, et a dit, maintenant, je peux vraiment dire notre Père qui est aux cieux, parlant du bon Dieu. Alors, il est évident que ce n'est pas toujours facile de trouver une solution. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit de l'Église interdit les deux excès. Interdit à un homme qui veut rentrer en vie religieuse l'abandon de ses parents quand les parents ont vraiment besoin de lui. Et interdit aussi à quelqu'un qui est en vie religieuse, surtout après ses vœux, d'abandonner sa vie religieuse pour s'occuper de ses vieux parents. Donc on retrouve ici, si vous voulez, la tradition de l'Église, à la fois qui condamne les parents qui interdisent la vie religieuse de leurs enfants, hein, et qui condamne aussi les parents qui obligent leurs enfants à suivre la vie religieuse. C'était malheureusement une coutume au Moyen-Âge qui n'était pas bonne, où certains fils de famille étaient obligés littéralement par la famille de rentrer en vie religieuse. Ça, c'est pas bon du tout. Hein. De même que vous ne pouvez pas obliger un de vos enfants à épouser telle ou telle personne, vous n'avez pas autorité pour cela. De la même façon, vous ne pouvez pas obliger votre enfant à rentrer en vie religieuse. Donc souvent, l'aîné de famille reprenait le château paternel pour les gens de la noblesse, et puis le second de famille était confié à l'armée, est devenu officier de l'armée, et le dernier de famille, les autres, après, s'occupaient de la vie religieuse. Non, c'est pas le château de famille qui passe avant la vie religieuse, c'est Dieu qui passe avant le reste. Hein. On voit quand même qu'il faut faire, il faut bien équilibrer ces choses, et c'est pas toujours très facile. C'est pour ça qu'il faut utiliser dans ce cas-là la vertu de prudence et le don de sagesse pour savoir ce qu'il faut faire. C'est un problème qui est très fréquent. Moi-même actuellement, je suis dans cette situation avec ma vieille maman qui a 88 ans, mon père est mort maintenant, malheureusement. Ma maman se retrouve toute seule. Bon, ben, j'ai le devoir d'aller essayer d'aider ma mère. Une fois de temps en temps, une fois tous les deux mois à peu près, je pars une semaine aider ma vieille maman pour essayer de faire ce que je peux en tant que fils, en plus je suis l'aîné de la famille, en tant que fils aîné pour aider ma vieille maman. Mais je ne peux pas non plus être tout le temps là-bas, pas possible. Donc quand j'y vais, je me limite à une semaine et je reviens m'occuper de mon devoir d'État ici. Et je m'arrange même quand je pars. Je suis très occupé pour m'occuper de ma vieille maman à Gap, dans les Hautes-Alpes, je m'arrange à ce moment-là. Auparavant, d'avoir m'être avancé dans les cours que je donne le mercredi et le vendredi. Mercredi, le cours sur l'exégèse des textes de l'Écriture sainte des Évangiles. Et le vendredi, l'explication de la somme théologique de saint Thomas. Je m'arrange pour que ces cours soient préparés à l'avance, soient déjà sur le site pour être sûr que, en allant voir ma vieille maman, je ne manque pas mon devoir d'État par rapport à mes fidèles. Voilà. Même si mes fidèles sont en plus des fidèles virtuels par Internet. J'ai très peu de personnes à la messe le dimanche, j'ai un coin complètement perdu, mais j'ai quand même, entre 200 et 300 personnes, au moins, je pense, c'est difficile de savoir exactement, 200 à 300 personnes qui se connectent chaque semaine sur le site d'Anne Marie pour écouter les sermons ou les cours. Et donc, je dois m'en occuper aussi. Alors, passons maintenant à la question 102. Sur le respect. Le respect dû justement à ceux qui sont placés en autorité. Donc saint Thomas va expliquer que ce respect consiste à attribuer culte et honneur aux hommes qui nous précèdent en dignité. L'honneur étant la récompense de la vertu. Donc on ne pense pas toujours à faire remonter jusqu'à Dieu l'honneur que l'on rend à son image. Vous avez quelques textes de saint Thomas en bas de la page 105 sur le polycopier, en haut de la page 106. Donc, et un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin sur ce sujet, je pense que ce respect est extrêmement important. Vous voyez, c'est une chose qui me frappe le plus dans le pauvre pays de France actuellement. On sent qu'on arrive à une fin de règne, à une fin de civilisation. Quand on voit surtout le manque de respect des enfants par rapport à leurs parents, c'est absolument épouvantable. Cette espèce de mépris des personnes âgées, c'est gravissime. C'est pas le cas dans tous les pays. Dans certains pays, par exemple, ça m'avait frappé dans les pays d'Extrême-Orient, ce respect fréquent à l'égard des anciens, ou à l'égard de ceux qui sont en autorité. On m'a raconté une fois une petite histoire là-dessus qui m'avait bien frappé. Ça se passait au Japon. Bon, je ne connais pas le Japon, je connais d'autres pays d'Extrême-Orient, mais je ne connais pas le Japon. Mais une personne qui vivait là-bas m'expliquait que une fois, il était dans une grande ville japonaise et il était sur le trottoir et devant lui un jeune homme a manqué de respect à une personne âgée, se moquer d'une personne âgée. Et il y avait juste à côté de cette personne que je connaissais, donc qui était sur le trottoir, qui contemplait avec douleur ce manque de respect d'un jeune à l'égard d'une personne âgée, il y avait un sumo, hein, cette espèce d'énorme bonhomme qui pratique ces luttes traditionnelles au Japon, qui sont des gens qui ont presque rang de divinité au Japon. Et le sumo a vu ça. Et il est arrivé derrière le garçon qu'il n'avait pas vu arriver. Il l'a attrapé par le col, l'a soulevé 40 cm au-dessus du sol et a traversé la rue pour le mettre de l'autre côté. Il l'a laissé tomber comme un sac de vieilles noix de l'autre côté de la rue. Je suis sûr que le jeune garçon a compris sa leçon et est parti sans demander son reste. Vous voyez, je pense que c'est très important. Il faut donner à nos enfants ce respect à l'égard de l'autorité, et un acte de piété finale. La première autorité, évidemment, c'est l'autorité de nos parents. Donc, saint Thomas va se poser cette question de savoir si ce respect est une vertu spéciale. Donc, c'est la question 101, seconda secondé, deuxième partie, question 102, article 1. La personne qui est chargée de prendre soin de nous, sous quelque rapport, participe à la qualité de père. En tant que, par la dignité dont elle est investie, elle est comme le propre père, un principe de gouvernement et de direction relativement à des choses déterminées. Tels sont, dit saint Thomas, le prince dans les rapports civils, le chef d'armée dans la guerre, nos maîtres dans l'enseignement et ainsi les autres. Bien sûr, nos parents. De même, sous la piété filiale, dit-il, se trouve le respect qui honore et révère les personnes constituées en dignité. Oui. C'est pas toujours très facile, parce que j'en ai parlé, je crois, dans les cours que j'ai donné en exégèse, il n'est pas toujours facile, par les temps qui courent, d'avoir du respect pour nos dirigeants. Et en fait, quand on voit la façon dont nos dirigeants se comportent, en se moquant complètement de leur devoir d'État, eh bien, il est évident qu'il est très difficile d'avoir du respect pour eux. Mais il faut au moins garder le respect pour l'autorité, le principe d'autorité de ces personnes. Vous voyez ? On a un devoir de respect à l'égard de l'autorité, même l'autorité locale. Vous voyez ? Un certain respect, par exemple, qu'on doit avoir, si j'habite dans un tout petit village, le respect à l'égard du maire, par exemple, qui est une personne en autorité. Quand je vois le maire du village dans lequel je vis, c'est monsieur le maire. Je le respecte. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord forcément avec tout ce qu'il fait, mais je respecte son autorité. De la même façon, on doit un certain respect à la personne qui ont une autorité civile, je pense par exemple à la police, etc. Dans une certaine mesure, il faut bien sûr respecter ces personnes-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout. C'est pareil pour le respect dû aux pauvres gens qui nous dirigent actuellement politiquement parlant, même si ce sont des bandits de la pire espèce. Il faut quand même respecter le principe même de leur autorité. C'est pas facile tous les jours. Et donc saint Thomas explique cela, voilà le texte, vous avez le texte là, directement de saint Thomas, en bas de la page 105. C'est une loi de la nature, dit-il, que les êtres supérieurs fassent agir les inférieurs par la supériorité de la vertu naturelle que Dieu leur a donnée. Donc de même qu'en vertu de l'ordre naturel institué par Dieu, les êtres inférieurs sont nécessairement soumis à l'émotion que leur impriment les êtres supérieurs, de même chez les hommes, selon le plan de droit naturel et divin, les inférieurs sont tenus d'obéir à leurs supérieurs. Donc l'obéissance se montre d'autant plus empressée qu'elle devance l'expression du précepte dès qu'elle a compris la volonté du supérieur. L'obéissance qui trouve son compte quand tout va bien est nulle ou petite. Mais dans les contradictions et difficultés, l'obéissance domine. Il peut arriver qu'une obéissance qui rencontre son intérêt n'en soit pas moins louable si celui qui obéit par sa volonté propre n'en met pas moins toute sa générosité à accomplir le précepte. Donc il faut, surtout dans les familles, que nos enfants apprennent à respecter les supérieurs. Vous voyez ? Ça commence par les petits mots magiques, bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, pardon, merci. Et j'ai vu ça, c'est fréquent dans certaines familles, pourtant même de la catholique, les familles catholiques et même dans certaines familles de la tradition. Je viens visiter une famille pour une raison ou pour une autre, je suis invité par exemple dans la famille, et parfois on voit les enfants qui sont en train de jouer par exemple dans le salon, le prêtre arrive, attend un petit peu dans le salon, parce que maman est occupée, ou papa est occupé avec autre chose, et les enfants ne se lèvent même pas pour venir saluer l'autorité du le prêtre. Or, le prêtre représente le bon Dieu. Rappelez-vous Saint Curé d'Ars qui expliquait à ses fidèles, si j'ai à ma porte trois personnes qui viennent frapper à ma porte en même temps, mon ange gardien, la très sainte Vierge Marie et le prêtre, dit-il, je saluerai d'abord le prêtre, parce qu'il est ministre de Dieu, avant l'ange et avant la Sainte Vierge. Vous voyez ? Bon, bien sûr, quand on a en face de nous des gens qui sont prêtres mais qui ne veulent plus agir comme tels, c'est autre chose. Mais il faut garder, encore une fois, le principe d'autorité en tête. Alors, quelques mots encore sur ce respect dans Saint Thomas. Donc, le respect, ici, Cicéron, est une vertu par laquelle on rend une sorte de culte et d'honneur aux hommes revêtus de dignité. Le culte ou le dévouement récompense de leurs bienfaits. Donc, c'est Saint Paul aux Hébreux, chapitre 13, « Obéissez à vos chefs et soyez-leur soumis. » Alors, Saint Thomas se pose la question de savoir si le respect est une vertu supérieure à la piété filiale. La réponse est évidemment négative. La piété filiale est supérieure au respect. Le respect est une conséquence de la vertu, de la piété filiale et pas l'inverse. Donc la naissance et l'éducation qui nous viennent de nos parents touchent de plus près à notre substance que le gouvernement extérieur dont les dignitaires sont le principe. Donc la piété filiale, l'égard directement de nos parents, passe avant la piété, si vous voulez, à l'égard de d'autres prochains plus éloignés de nous. Donc les enfants, une note intéressante là qui dit que les enfants sont obligés d'honorer leurs parents plus que les hommes vertueux à raison de des liens naturels et des biens reçus. Et mais c'est important, encore une fois, c'est des choses qui me frappent. Mon travail de missionnaire m'a permis de comparer un petit peu la décadence de la civilisation en France et la décadence de la civilisation dans d'autres pays. Ça m'avait beaucoup frappé, encore une fois, dans ces pays asiatiques, entre autres, ce respect pour l'autorité. Et je vous raconte un petit exemple que j'ai peut-être déjà raconté encore une fois. Je m'excuse si je me répète, n'oubliez pas que j'ai passé mes 65 ans et j'ai un cerveau qui se ramollit un peu, donc je ne me rappelle plus très bien ce que j'ai raconté, ce que je n'ai pas raconté. Mais c'est des exemples que je donne quand j'y pense sur un sujet donné, que j'explique à partir de Saint Thomas d'Aquin. J'étais une fois à Bangkok, donc en Thaïlande, et j'attendais un vol. J'arrivais de France, je crois, et j'ai pris un premier vol, donc Paris-Bangkok, et je prenais un deuxième vol, Bangkok, et je rentrais sur l'Australie, Brisbane. Et le vol était plein, donc j'attendais dans la salle d'attente, moi j'étais en train de dire mon bréviaire, j'étais en soutane bien sûr, en train de dire mon bréviaire tranquillement, et le commandant de vol annonce que le vol est prêt, qu'on peut embarquer, que les premières... les classes de première vont pénétrer d'abord dans l'avion. Donc toutes les premières se lèvent, se présentent au portique, au portillon d'entrée pour rentrer dans l'avion, dans le couloir qui est mené à l'avion. Et le chef de bord a fait un signe pour arrêter tout le monde. Personne n'est rentré. Et il est venu, il a traversé toute la salle d'attente pour venir se présenter devant moi. Je lève les yeux en voulant arriver, et il fait un signe de respect à mon égard, comme font tous les orientaux, en joignant les mains, en inclinant profondément la tête, et sans dire un mot, il m'a fait signe de me présenter d'abord. Et je suis passé devant tout le monde. Je suis passé devant tout le monde, et en plus de ça, il m'a mis en première classe. Et je suis certain que cette personne, ce chef de bord qui a fait ça, devait être bouddhiste. Donc il ne savait même pas qui j'étais. Mais il a vu une soutane, il a simplement compris, je pense, que j'étais un religieux. Donc une personne qui a une autorité religieuse. Personne qui a autorité religieuse, ça passe avant les premières. Et donc il m'a fait passer avant. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne voit plus du tout dans nos pays, malheureusement. Pratiquement plus. Mmh. J'ai vu ça aussi, même très fréquemment en Australie, quand je cherchais quelque chose, par exemple. Ça vient aussi de la gentillesse innée des Australiens, mais quand même, on sentait qu'il y avait un respect pour la soutane. Bien, j'étais dans un pays complètement athée ou très influencé par le protestantisme libéral. Rapidement, la question numéro 103, la vertu de Duli. Hein, donc, la vertu de Duli correspond au culte de Duli. Elle rend supérieur des hommages qui se distinguent du culte de l'atri. Donc, c'est partie du respect. Je rappelle ce que c'est que le culte de l'atri. Le culte de l'atri, c'est le culte d'adoration. Donc, le culte de l'atri, L-A-T-R-I-E, n'est dû qu'à Dieu seul. Le culte de Duli est un culte de révérence au saint, par exemple, qu'on appelle le culte de Duli, avec un culte, un terme spécial utilisé pour la révérence et le respect qu'on doit avoir à l'égard de la Très Sainte Vierge Marie, qui est appelé à cause de cela un culte d'hyper-Duli. Donc, Saint Thomas a fait remarquer que même lorsque les supérieurs sont mauvais, il faut les respecter et les honorer pour leur dignité même. Donc, le service de Duli, le culte de Duli, est un culte dû aux hommes, alors que le culte de l'atri est un culte qui n'est exigé que par rapport à Dieu. Donc, la vertu de Duli, dit saint Thomas, par laquelle les serviteurs révèrent leur maître, diffère essentiellement de la vertu de l'atri, qui rend le service à Dieu. Donc, le culte de l'atri est un culte d'adoration. Donc, le culte de Duli, au contraire, n'est pas un culte d'adoration, mais un culte de vénération à l'égard de celui qui a autorité. Je devais faire très attention à ces choses-là aussi. Je me rappelle, dans mon apostolat, dans les îles du Pacifique. Donc, notamment quand j'allais, par exemple, à l'île de Rotuma, donc au nord-ouest des îles Fidji, qui sont elles-mêmes des îles qui sont au nord de la Nouvelle-Zélande, eh bien, lorsque j'arrivais à Rotuma, j'y allais une fois tous les... On n'y allait pas souvent, on y allait deux, trois fois par an, mais j'arrivais avec un petit avion, et puis la première chose qu'il fallait que je fasse, c'était d'abord d'aller saluer le chef de village. Il serait impensable, pour un prêtre même en soutane, de commencer son apostolat sans avoir d'abord aller payer ses respects au chef de village. Donc la vertu de Duli, donc ce respect à l'égard des saints, entre autres, prise dans le sens large pour distinguer, désigner la révérence qu'on défère à tous les hommes distingués par une cérémonie quelconque, vont faire la piété filiale et le respect de toutes les vertus semblables qui ont pour fin d'honorer les hommes. Dès lors, elles se subdivisent en plusieurs espèces. Donc, l'hyperdulie, j'ai déjà expliqué, par laquelle on rend le plus grand honneur à la créature qui est la plus grande affinité avec Dieu, est réservée à la Très Sainte Vierge Marie. Parce que la Très Sainte Vierge Marie a un rapport avec Dieu supérieur à celui que les saints ont avec ce même Dieu. C'est pareil, par exemple, pour le respect, l'adoration, l'honneur, et la vénération due à la croix. Pourquoi ? Parce que on l'honore en l'honneur que l'on rend au Christ, comme on vénère la pourpre des rois, du même honneur que le roi. C'est pour ça qu'il y a dans l'Église catholique, on adore la croix, hein, surtout aux cérémonies d'exposition solennelle, comme par exemple le Vendredi Saint. Passons à la question 104, qui est plus importante. De l'obéissance. Et question 105, de la désobéissance. Trois questions qui se suivent là sont en des rapports évidemment entre elles. Obéissance, question 104, désobéissance, question 105, et reconnaissance, question 106. Donc l'obéissance est une vertu fondamentale pour l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de rattraper le péché d'orgueil du démon. Comme c'est l'orgueil qui a amené le malheur au monde, c'est l'orgueil qui a entraîné le péché originel, il ne faut pas oublier. Donc c'est l'obéissance qui va permettre de vaincre cet orgueil. L'obéissance qui est une sœur, une fille directe de la vertu d'humilité. C'est pour ça que Saint Paul aux Hébreux, chapitre 13, exige de nous que nous obéissions à nos chefs et que nous leur soyons soumis. Bon, pourquoi cette obéissance? D'où vient cette obéissance? Tout simplement parce que les inférieurs doivent obéir à leurs supérieurs à cause de l'autorité dont ceux-ci sont investis. L'autorité de Dieu sur les hommes est manifestée par l'autorité de ses ministres sur ces mêmes hommes. C'est pour ça que le prêtre a une certaine autorité sur les fidèles, hein, dans le domaine qui est le sien. Attention, hein, c'est évident qu'un prêtre n'aurait aucune autorité dans une famille, par exemple, pour des choses matérielles qui n'ont rien à voir avec la foi. Donc, vous avez quelques textes ici de saint Thomas à la page 106 sur le polycopier. Page 106 et page 107 également. Donc l'obéissance, dit saint Thomas, est louable parce qu'elle procède de la charité. On doit pratiquer l'obéissance, dit saint Grégoire, non pas par crainte servile, mais par charité. Non par crainte de châtiment, par amour de la justice. De même, dit-il, que le péché consiste en ce que l'homme, en méprisant Dieu, s'attache au bien périssable. Ainsi, le mérite de l'acte vertueux consiste au contraire en ce que l'homme, en méprisant les biens créés, s'attache donc à Dieu. C'est pour ça que cette vertu d'obéissance est tellement fondamentale, parce qu'elle va nous permettre de couper la concupiscence de l'orgueil. La concupiscence de la chair est coupée par la vertu de chasteté, la concupiscence des yeux par la vertu de pauvreté, et la concupiscence de l'orgueil, elle, est coupée par la pratique de la vertu d'obéissance. S'il fallait définir le monde moderne, surtout en France, on pourrait utiliser le mot désobéissance ou révolte. Réapprendre aux enfants à obéir. Attention! Si un enfant n'apprend pas à obéir à 5 ans, hein, c'est pas à 25 ans ou à 15 ans qu'il va apprendre à obéir. Hein. Et donc il faut exiger cette obéissance. Hein. C'est des détails, mais que les enfants, j'ai remarqué, ont beaucoup de mal à comprendre. J'ai vu ça dans les familles, par exemple. Le papa donne un ordre à un enfant de 10 ans, et l'enfant n'obéit pas. Et puis il continue de jouer, par exemple, et puis au bout d'une minute, il se reprend, il se lève, et il obéit à son père. Eh bien, il y a eu désobéissance déjà. « Ah, mais j'ai fini par obéir », me dit l'enfant. Non, il a obéi au bout d'une minute. Il aurait dû obéir immédiatement. Quand mon papa demande quelque chose, c'est Dieu qui me demande quelque chose, donc j'obéis. Nous voyons donc c'est un petit peu cette question 104, qui comporte 6 articles, donc sur... l'obéissance, l'obligation imposée par la vertu d'obéissance, l'excellence de l'obéissance, l'obéissance à Dieu, l'obéissance supérieure, l'obéissance à la puissance temporelle. Donc, une question importante ici. Donc, je répète cette phrase clé de saint Thomas. De même que le péché consiste en ce que l'homme, en méprisant Dieu, s'attache au bien périssable, ainsi le mérite de l'acte vertueux consiste au contraire en ce que l'homme, en méprisant les biens créés, s'attache à Dieu. Donc, si l'on méprise les biens créés pour s'attacher à Dieu, la vertu mérite plus d'éloges pour son attachement à Dieu que pour sa raison. Pardon. Si l'on méprise les biens créés pour s'attacher à Dieu, la vertu mérite plus d'éloges pour son attachement à Dieu que pour son mépris des biens terrestres. C'est pourquoi, dit saint Thomas, les vertus par lesquelles on s'attache à Dieu pour lui-même, ce qui sont les vertus théologales, foi, espérance et charité, l'emporte sur les vertus morales pour lesquelles on méprise le terrestre pour s'attacher à Dieu. Donc, nous devons cette autorité à nos supérieurs à cause de l'autorité dont ceux-ci sont investis. L'autorité de nos supérieurs est une participation à l'autorité du supérieur qui est au-dessus de mon supérieur direct. Alors, saint Thomas se pose la question, l'article 3 de la question 104, L'obéissance est-elle la plus grande des vertus ? Il ne faut pas vous garder trop longtemps. Alors voilà ce que dit saint Thomas sur cet article 3, donc, qui est important, de la question 104. Il dit que la vertu d'obéissance est inférieure aux vertus théologales. La vertu théologale, c'est foi, espérance, charité, attention. Mais elle vient immédiatement après et prend rang avant toutes les autres vertus morales. Donc, l'obéissance méprise par attachement à Dieu, non seulement les biens extérieurs et les biens du corps, mais encore le premier de tous les biens de l'âme, la volonté propre, par laquelle nous faisons usage des autres biens. Donc, elle mérite la prééminence sur toutes les autres vertus. Saint Grégoire concluait de là avec raison qu'elle vaut mieux que les victimes. Dans les victimes, on sacrifie une chair étrangère, dans l'obéissance, on immole sa propre volonté. C'est beaucoup plus difficile de donner ce que l'on est que ce que l'on a. Donc, relativement facile de donner nos biens personnels, propres, mais c'est beaucoup plus difficile pour nous de donner notre volonté propre. Donc, celui qui mortifie sa volonté propre mortifie déjà beaucoup de choses. Donc saint Thomas donne des détails. L'obéissance, dit-il, par elle-même, est la plus louable des vertus, parce que pour Dieu, elle méprise la volonté propre, alors que pour les autres vertus morales, on méprise certains autres biens en vue de Dieu. Donc c'est pourquoi certaines autres activités sont méritoires devant Dieu parce qu'elles sont accomplies pour obéir à la volonté divine. Ainsi, dit saint Thomas, si quelqu'un endurait le martyr ou distribuait tous ses biens aux pauvres, à moins qu'il n'ordonne ses œuvres à l'accomplissement de la volonté divine, ce qui concerne directement l'obéissance, de telles œuvres ne pourraient être méritoires, tout comme si on les faisait sans la charité. Alors, je reprends cette phrase, de telle sorte. Excusez-moi, je soutiens Lina. Si quelqu'un endurait le martyr ou distribuait tous ses biens aux pauvres, à moins qu'il n'en donne ses œuvres à l'accomplissement de la volonté divine, ce qui concerne directement l'obéissance, de telles œuvres ne pourraient être méritoires, tout comme si on les faisait sans la charité qui ne peut exister sans Dieu. C'est la fameuse épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens, chapitre 13, dont l'hymne à la charité. Même si je donne mon corps à brûler, si je n'ai pas la charité, tout ce que je fais vaut rien. Celui qui prétend connaître Dieu et ne garde pas ses commandements est un menteur, dit saint Jean. Quant à celui qui observe ses paroles, l'amour de Dieu a vraiment trouvé en lui son accomplissement. Et cela parce que l'amitié procure aux amis identité de vouloir et de refus. Donc attention à cette notion d'obéissance. Et encore une fois, l'obéissance, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, l'obéissance est quelque chose qui doit être appris aux enfants de 5 ans. Hein? Dès qu'ils sont tout petits, dès que la raison commence à poindre, il faut faire pratiquer aux enfants l'obéissance. C'est-à-dire que lorsqu'un papa ou une maman donne un ordre à son fils, l'obéissance doit être immédiate. Si un enfant attend une minute avant d'obéir, ce n'est plus un acte d'obéissance. Mais j'ai fini par obéir, dit-il. Oui, mais vous avez obéi au bout d'une minute. Le papa demande quelque chose, c'est Dieu qui demande quelque chose, j'obéis. Immédiatement, je laisse tomber ce que je fais et j'obéis. Le problème, c'est que cette obéissance spontanée et immédiate se perd dans beaucoup de familles. Hélas. Alors, saint Thomas se pose la question, article 4 de la question 104, faut-il obéir à Dieu en toute chose ? Donc, saint Thomas va donner la règle générale. Dieu est la première cause motrice de toutes les volontés comme de tous les êtres de la nature. De même donc que tous les êtres physiques sont soumis à son impulsion par la nécessité naturelle, ainsi toute volonté doit obéir à ses commandements par la nécessité de justice. Alors, il y a des objections. Une des objections, c'est l'histoire d'Abraham qui s'apprête à immoler son fils, ou les Israélites qui, sur ordre de Dieu, emportent les vases et les habits des Égyptiens. ou Osée qui épouse une femme de mauvaise vie. Tous savaient que Dieu est l'auteur de la vie et de la mort, le maître de tous les biens et le suprême ordinateur de la génération humaine. Alors, question, article important aussi, l'article 5. Les inférieurs doivent-ils obéir en tout à leurs supérieurs? Il est évident que, là encore une fois, il faut du bon sens. Il faut du bon sens, pas faire n'importe quoi. Entre autres, dans la vie religieuse, il est évident que le religieux obéit à son supérieur, protégé par les constitutions de l'ordre dans lequel il est. Et si le supérieur donne un ordre qui va contre les constitutions, il est évident que l'inférieur, non seulement n'a pas le droit d'obéir, mais doit désobéir. Donc n'oublions pas que cette vertu d'obéissance est une vertu qui immole notre propre volonté. Donc c'est la meilleure des façons de pratiquer, de lutter contre l'orgueil. Donc tous les actes des vertus, dit saint Thomas, relèvent de l'obéissance, du fait qu'ils sont commandés. Donc, en tant que les actes des vertus agissent comme des causes, des dispositions pour engendrer ou conserver celles-ci, on dit que l'obéissance les introduit et garde tout, et les garde toutes dans l'âme. L'obéissance est vraiment une des vertus les plus importantes, surtout dans l'éducation. Alors, de cause dispose un inférieur d'obéir à son supérieur. Saint Thomas donne certains détails. Il dit d'abord, si le commandement d'un pouvoir plus élevé, si un supérieur direct vous demande, donne un ordre, le supérieur au-dessus a donné un ordre différent, le supérieur, évidemment, a plus d'autorité que le supérieur inférieur. L'empereur et Dieu donnent-ils des ordres contradictoires? On doit obéir à Dieu plutôt qu'à l'empereur, on a déjà expliqué. Donc, encore une fois, apprendre aux enfants à obéir immédiatement. Ça, j'ai été témoin, malheureusement, dans bien des cas, dans les visites de famille, de parents qui ne savent pas se faire obéir des enfants, parce qu'ils ont peur, toujours pareil, ils ont peur de se mettre les enfants à dos. Ils disent, je ne peux pas être tout le temps sur le dos de mes enfants, donc je ne leur donne pas trop d'ordre, parce que vous comprenez, je ne veux pas qu'ils se sentent, qu'ils me considèrent comme une marâtre. Et en fait, c'est l'inverse qui va se passer. Vos enfants vont finir par vous mépriser parce que vous ne remplissez pas votre rôle de maman ou de papa. Donc, pas dans le cas de la vie religieuse, par le vœu d'obéissance, le religieux s'oblige à suivre les statuts d'un ordre et se soumettre à leur supérieur dans le domaine de la règle. Donc, s'ils obéissent volontiers dans d'autres points, c'est un acte de perfection. Donc, les choses qui ne sont pas prévues par la règle, il est mieux d'obéir également au supérieur tant que l'ordre ne va pas directement contre la règle. Donc vous avez encore une fois page 106, ce texte de saint Thomas que j'ai déjà en grande partie expliqué. Donc, si vous voulez, on peut expliquer comme ça que la vertu d'obéissance va couronner en quelque sorte l'œuvre faite d'un parfum extraordinaire, parce que justement l'obéissance est faite par rapport à l'amour du bon Dieu. Alors, il y a des détails ici qui sont tout à fait dans l'esprit de l'Église. On peut considérer, dit saint Thomas, en haut de la page 107 sur le polycopier, on peut considérer trois sortes d'obéissance. L'une suffisante au salut, obéir à tout ce qui est d'obligation. La seconde parfaite, obéir à tout ce qui est permis. La troisième, excessive, obéir même en ce qui est défendu. Il faut évidemment attention à l'application de cette règle. On n'a pas le droit d'obéir à un supérieur si on sait que le supérieur nous demande un péché. Le fait commettre un péché, c'est absolument évident. Si les chefs ont une autorité usurpée, donc injuste, ou si leurs préceptes sont injustes, leurs sujets ne sont pas tenus de leur obéir, sinon peut-être par accident pour éviter un scandale ou un danger. Le péché véniel n'est pas une désobéissance, parce qu'il ne va pas contre le principe, mais pas à ses côtés. Plus l'autorité est grande, plus la désobéissance est grave. Donc désobéir à Dieu est plus grave que désobéir aux hommes. La désobéissance est donc d'autant plus grave que le commandement transgressé est plus haut placé dans l'intention de celui qui l'a donné, plus l'objet du précepte est bon, plus Dieu veut l'accomplissement de celui-ci. Alors, saint Thomas termine cette question numéro 104 sur l'obéissance par un article, l'article 6, se posant la question de savoir si les chrétiens sont tenus d'obéir aux puissances temporelles. Saint Paul, à Tite, chapitre 3, nous conseille d'être soumis aux princes et aux magistrats. La foi en Jésus-Christ ne détruit pas la justice, mais l'affermit. Ainsi, il faut en conclure que la foi catholique n'affranchit pas les chrétiens de l'obéissance qui doivent aux puissances temporelles. Dire tant que la puissance temporelle me donne un ordre qui n'est pas un péché, je dois obéir à l'ordre. Bon, il est évident que si la puissance temporelle me demande de faire quelque chose qui va contre la loi naturelle, j'ai pas le droit d'obéir. Alors, où est-ce que j'en suis là? Donc, c'est la question numéro 6. Donc, la foi catholique, c'est la conclusion de saint Thomas, n'affranchit pas les chrétiens de l'obéissance qui doivent puissance temporelle. Oui, donc, il faut distinguer les deux choses. Dans les choses matérielles, on obéit à la puissance temporelle. Dans les choses spirituelles, on obéit à la puissance spirituelle. Bon. Et je pense qu'il faut, je sais aussi répondre tout de suite à une objection qu'on entend très souvent dans le milieu de la tradition. Les gens le disent, même sur l'abbé, puisque nous sommes orphelins d'autorité, il n'y a plus de pape depuis la mort du pape Pie XII en 1958, donc il n'y a plus de sujet d'obéissance, on n'est plus tenu d'obéir à quoi que ce soit, puisqu'on n'a plus de supérieur. La réponse est toute simple, l'Église est toujours là. L'Église n'a plus rien à voir, évidemment, avec l'Église de Vatican II, mais l'Église est toujours là, parce que l'Église est inadmissible, l'Église ne peut pas disparaître, c'est absolument impossible. Donc il faut continuer d'obéir à ce que l'Église a toujours fait pendant 20 siècles. Alors, nous avons quand même pas mal avancé aujourd'hui. Nous commencerons la prochaine fois, si Dieu veut, la question 105, justement, sur le contraire de ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, le péché contraire à la vertu d'obéissance, à savoir le péché de désobéissance, question 105. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.